30 ans quand même, hein. 3 décennies, 6 quinquennats, c'est pas mal. Alors évidemment, de l'eau est passée sous les ponts et du muscadet a coulé sous les tonnelles depuis l'époque du CD Motté naissant, inconfortablement installé à la Bourse du Travail, jusqu'au CHT d'aujourd'hui, bien implanté dans les anciens bureaux des ACN, lieu qui nous paraît évidemment tout aussi symbolique. Du temps est passé depuis la glorieuse époque de nos salariés pionniers, défricheurs de l'histoire sociale départementale, Jean-Pierre Lecrome, Daniel Sicard, René Bourigaud et d'autres bien sûr, souvent sous les verrières de la Bourse du Travail à partir du mois de mai et grelottant à partir du mois d'octobre.
Bonjour, le Centre d'Histoire du Travail organise du jeudi 29 septembre au dimanche 2 octobre un temps fort autour de l'œuvre de l'écrivain et réalisateur Gérard Mordilla. Ce programme s'inscrit dans le cadre des 30 ans du CHT et est enrichi par une exposition « Fragments d'histoire sociale, la Loire-Atlantique en lutte », exposition qui se tient à la Maison des Hommes et des Techniques, et par une série de reportages que nous allons diffuser toute la semaine. Pour le second numéro de cette série, intéressons-nous au CHT d'aujourd'hui en compagnie de Yannick Drouet, président du Centre d'Histoire du Travail, un président qui s'est intéressé aux archives du PSU.
Oui, j'ai été d'abord et avant tout un utilisateur dans le sens où je m'intéressais au PSU et le CHT à des archives très importantes de ce petit parti des années 60-70. Et puis ensuite, j'étais membre du bureau pendant, on va dire, 5-6 ans avant d'arriver à la fonction suprême.
C'est parce qu'on ne trouvait aucun autre candidat.
c'est une bonne remarque.
En ces temps héroïques, le CD Motté pouvait s'enorgueillir de ses 200 mètres linéaires d'archives et de quelques centaines d'ouvrages que constituait sa bibliothèque, dont, il faut le dire, le célèbre 100 ans d'histoire du football en France, cote N3, qui apparemment aurait été un don de Yannick Gain et dont la lecture apparaît effectivement indispensable pour une bonne compréhension du mouvement social. 30 ans plus tard, le CHT est devenu une institution qu'on peut considérer comme incontournable, et un instrument de travail unique pour tous les chercheurs sur le mouvement social du département et d'ailleurs. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 170 fonds, 16 000 volumes dans la bibliothèque, 4 500 titres de périodiques différents. En 30 ans, le CHT a pleinement rempli sa mission première de collecte et de classement des archives du monde du travail, que ce soit le monde paysan ou le monde ouvrier. Mais il est allé aussi au-delà de cette mission première en valorisant ses archives par des expositions, des partenariats et par une politique éditoriale, certes ponctuelle, mais toujours pertinente, et qui de plus, et surtout, a permis de donner la parole aux militants, qu'ils soient le militant de base ou ceux qui exercent des responsabilités au sein de leur entreprise ou dans les organisations syndicales.
Alors j'ai envie de défendre ce centre d'abord parce que je suis historien, donc évidemment l'archive, je baigne dedans, si je puis dire, et puis surtout parce que l'histoire du mouvement social n'est pas vraiment une histoire qui a été privilégiée pendant de très très longues années, notamment à Nantes, et qu'il me semble essentiel que cette histoire soit faite et donc qu'elle puisse se faire dans les meilleures conditions, donc avec les archives. Ce qui se fait la spécificité du Centre d'Histoire du Travail, c'est de pouvoir accueillir et donc rassembler la grande majorité, pas la totalité bien entendu, mais la grande majorité des archives du mouvement social du département, et plus loin même. Il est évident aujourd'hui que dans certains lieux, dans certains départements, dans certaines régions, même dans la plupart des régions, un historien, un jeune chercheur qui veut faire une étude sur un ou deux syndicats va avoir beaucoup de mal à avoir un lieu référent. Peut-être que les archives de tel syndicat seront aux archives départementales, peut-être qu'il faudra qu'il aille dans la section de tel syndicat, peut-être qu'il faudra qu'il aille à l'UD, bon. Mais il n'y aura pas de logique. Bon. L'intérêt du Centre d'Histoire du Travail, c'est que c'est un lieu qui rassemble, qui collecte et qui rassemble la grande majorité des archives des syndicats, de militants du département. Et donc un chercheur qui veut travailler sur le mouvement social, c'est vraiment le lieu prédestiné pour ça.
Qui valorise aussi.
Bien sûr, nos statuts de départ en 1981, peut-être on peut rappeler que la mission première du Centre d'Histoire du Travail est une mission de collecte d'archives. Collecte, récollage, classement des archives. Bien. Nous avons voulu, au fil du temps, valoriser ces archives, donc leur permettre d'être diffusés et d'être utilisables par le plus de monde possible. Et c'est à ce titre que nous avons lancé, on va dire, une politique éditoriale. Enfin, le terme de politique éditoriale est un peu fort, puisque nous avons un travail d'éditeur, mais un travail d'éditeur, on va dire, ponctuel, selon un petit peu les opportunités.
Il y a deux versants. Il y a le monde ouvrier et le monde paysan.
Oui, d'accord.
On fait le constat ici que des problèmes de place. Quelle est la pertinence de s'occuper de ces deux fonds?
C'est important, parce qu'à l'origine, c'était le CDMOT, alors Centre de documentation du mouvement ouvrier et du travail. Et on a tenu en 1994 à le remplacer par CHT, Centre d'histoire du travail, pour justement ne pas avoir l'air de trop se polariser sur le simple monde ouvrier. Et pour bien prendre en compte que le mouvement social, ce n'est pas que le mouvement ouvrier. Le mouvement social, c'est aussi le mouvement paysan, et on sait que ce mouvement paysan a joué un rôle très important dans notre département, en relation avec le catholicisme social, en relation aussi avec l'anarcho-syndicalisme. Donc il est évident que si on a des archives uniquement ouvrières, on oublie finalement un pan du mouvement social. Le mouvement paysan est un pan important du mouvement social, et même il y a une époque dans les années 68 où il y a eu une volonté d'ailleurs de faire que les deux mouvements puissent s'unir. Et c'était d'ailleurs une des volontés en tous les cas des paysans-travailleurs, hein, paysans-travailleurs. De toute façon, je pense qu'il y a une légitimité à ce que ces archives soient, ce sont des archives, c'est le mouvement social, le mouvement paysan.
Je fais référence à 68 et pourquoi pas les archives des syndicats étudiants.
Ah mais bien sûr. Pourquoi pas les archives des syndicats étudiants, si tant est que les syndicats étudiants aient conservé des archives. Mais tout à fait. La notion de...
En fait, c'est une façon de voir un peu la cohérence du fond.
Et, alors, il y a une cohérence. Le mouvement social, c'est effectivement un très très vaste. C'est très vaste. C'est effectivement les syndicats ouvriers, les syndicats paysans et les syndicats étudiants, tout à fait. Bon, à partir du moment où il y a la volonté d'améliorer des conditions de travail, que ça se fait dans un cadre de syndicats qui ont conservé un petit peu tout l'historique de leurs revendications. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Si vous êtes à Paris, bon, il est évident que le mouvement du travail, il n'y aura pas grand-chose au mouvement paysan. On est bien d'accord. Vous êtes à Nantes, il y a une tradition rurale, il y a une tradition revendicative. Donc là, il y a une cohérence totale. Après, il y a les opportunités. Lorsque la Ligue des droits de l'homme, la section nantaise, nous propose ses archives, parce que justement, eux, dans leur histoire, ils considèrent qu'il y a un aspect social important et que ces archives ne sont pas énormes, on les prend. Lorsque Jean Popren, enfin pas Jean Popren, mais sa veuve, nous dit, est-ce que vous voulez les archives de Jean Popren? Alors c'est vrai qu'on n'est pas dans le monde syndical là, tout à fait, mais c'est quand même les archives de Jean Popren. Bon. Lorsque, en 1989, Joachim Lebeau, qui a été un des derniers dirigeants du PSU, appelle, parce qu'il c'est un dirigeant du PSU, puis il était du coin, il était bougnésien, il était nantais. Quand il nous appelle et nous dit, je suis à Paris au siège du PSU, le PSU n'existait plus, hein, il venait de disparaître. Bon. Et puis, les caves sont là, les archives sont là, et c'est inondé. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse pourrir 30 ans d'histoire d'un parti comme le PSU? Pardon, pas 30 ans, 20, enfin si, presque 30 ans d'histoire. Bon, on a récupéré les archives du PSU sur les années 73-88, donc les archives nationales. Pour la période antérieure, finalement, on s'est arrangé avec la BDIC à Paris, qui a pris le reste. Mais là, on a des opportunités. Il y a des militants qui nous proposent leurs archives. Souvent, les archives de militants, c'est pas énorme. Donc, on accepte ou on n'accepte pas. Mais, bon, je crois qu'il y a...
Sur quels critères?
Sur quels critères? La relation avec le monde du travail, toujours. Si ce sont des archives militantes, d'un passé militant, parfois aussi, ça peut être dans les archives, on a souvent aussi pas mal de livres, à côté bibliothèque. Bon. Souvent, on les prend parce que, ce sont des livres, les mémoires de tels militants, etc. Donc, on va les prendre, bien sûr. On va les prendre. Bon, où est la limite? C'est très difficile, ça. C'est très difficile. À la limite, tout peut être social ou rien ne peut être social. Hein. Où est la limite? La limite, quand même, c'est que on ne prend pas les archives patronales. On aura du mal à prendre les archives du MEDEF. Hein, la limite. La limite, c'est qu'on n'aura pas non plus les...
Mais pourquoi? Parce qu'au fond, ça pourrait être en écho... Pour ne pas trop faciliter le travail du chercheur.
Non. D'abord, en général, ceux qui s'intéressent aux archives patronales ou aux stratégies patronales ne sont pas tout à fait les mêmes qui s'intéressent aux archives et aux stratégies syndicales. Bon. Sauf si c'est le syndicat patronal. Bon. Il y a un centre à Roubaix, hein, qui est un grand centre, qui, lui, a été créé à l'époque de Jack Lang, hein, en 81, et qui, effectivement, est un centre là, qui accueille les archives, mais très très largement, notamment les archives patronales. Donc là, vous vous retrouvez avec des plans d'entreprise, etc. Donc là, il faudra une place énorme. La limite, elle est là aussi. Et puis, bon, il y a quand même une vocation militante, syndicale, bon, qui fait que les archives patronales ne sont pas tout à fait notre tasse de thé directement. Il faut dire ce qui est. Et puis parce que de toute façon, on n'aurait pas la place pour les accueillir. Et puis parce que je n'ai pas l'impression qu'ils voudraient de toute façon nous les déposer. Notre structure, maintenant, on est rendu à 30 ans, donc on a réussi à passer tout ça. Je ne pense pas qu'elle soit en danger dans ses fondements mêmes. Je pense qu'elle est acceptée aujourd'hui, elle est légitime aujourd'hui, et que peut-être qu'il faudrait se battre davantage si certaines municipalités passaient à droite, mais que pour autant, notre légitimité et notre travail, et notre reconnaissance ne seraient pas remises en cause. Enfin, c'est peut-être un vœu pieux, mais... J'ose l'espérer en tous les cas. On est unique en France. Hein. Bon, je ne m'en glorifie pas. Parce que si on est unique, c'est parce qu'il y a eu justement cette conjonction à un moment précis. Mais c'est vrai que nous sommes le seul lieu départemental en France où sont rassemblés quasiment l'essentiel des archives du mouvement du travail d'un département. Voilà. Et je crois qu'à ce titre... Les subventionneurs, nos subventionneurs principaux, la mairie de Nantes, le conseil général, peuvent quand même s'en enorgueillir.
C'est plutôt rassurant de voir qu'en fonction des alternances politiques, le centre n'est pas menacé. On ne vous demande pas d'ouvrir aux archives du MEDEF.
Non, je ne pense pas. Mais vous dites que le centre n'est pas menacé. Je pense que le centre ne serait pas menacé. Je ne veux pas être dans le présent, mais plutôt dans le conditionnel. Je pense que le centre ne serait pas menacé. Parce qu'on a acquis... je crois, une envergure, et on a acquis une légitimité qui ferait, je crois, mauvais effet et un coup politique vraiment bas qu'une municipalité nantaise, par exemple, de droite, viendrait nous mettre des bâtons dans les roues. J'ai pas l'impression, mais ça ne peut être qu'un vœu pieux. Mais je pense qu'on a acquis quand même cette légitimité-là. Nous avons, en ce qui concerne le PSU, donc les archives nationales entre 73 et 89, enfin 88-89. Nous avons également les archives de Jean Popren, qui parlent un peu du PSU, mais qui parlent surtout de l'IGS, qui a été un des petits partis qui est à l'origine de la fondation du PSU. Nous avons également des archives de militants PSU, les archives de Jean-Jacques Mabila, qui a été secrétaire fédéral PSU dans le 92, et les archives de Bernard Nectou, hein, qui a été militant PSU départemental, ainsi que celle d'Alain Brisset, qui a été aussi un militant départemental du PSU, et qui d'ailleurs, comme Bernard Nectou, a été à la direction politique nationale. Donc on a des archives très riches. Très nombreuses. Les archives les archives nationales, c'est quand même quelque chose comme 300 boîtes. Donc il y a de quoi faire. Bon. Alors à la fois il y a une partie, revue. Hein, il y a des revues, des brochures. Alors il y a toute une partie qu'on n'a quasiment pas classée, qui est une partie trésorerie. Alors, c'est énorme, mais on ne les a pas classés. Et puis autrement, il y a toute une partie qui va concerner les conférences nationales, les conseils nationaux, les congrès nationaux, etc. Donc là, c'est très très riche. D'autant plus que c'est la période 73-88. Alors le PSU, pour faire simple, c'est un parti qui a vécu une petite trentaine d'années. Il est né en 60. Il se situait entre l'EPC stalinien et la SFIO très social-démocrate. Donc il se situait entre ces deux-là. Il venait des anciens militants de la SFIO, mais qui ne trouvaient pas leur compte à la SFIO, justement du fait de la dérive molettiste, etc. Et des militants aussi du catholicisme social, de la gauche catholique, mais très sociale, marxisante, et également quelques militants de tribunes du communisme qui avaient rompu avec l'EPC, le PCF, bien sûr, avec l'URSS. Bon. Et puis, donc, ce parti connaît, on va dire... Bon, alors d'abord, il est né surtout de la volonté de combattre la guerre d'Algérie. Hein, c'est le lien, c'est ce qui lie tous ces gens-là, au départ. La guerre d'Algérie s'arrête en 62, le parti connaît une crise en 63, qui va durer plusieurs années, et puis, en 68, finalement, le PSU va bénéficier d'un élan, avec 68, qui fait que beaucoup de gauchistes, hein, entre guillemets, vont adhérer au PSU après mai 68, voyant dans le PSU un petit peu une alternative politique au vieux parti.
Yannick Drouet, président du CHT, est l'invité du magazine.
On arrive en 1974, au moment donc où Michel Rocard est, on va dire, les chiffres c'est un peu compliqué, mais enfin tout du moins une minorité du parti donc vont passer au PS. Alors, quand on prend toute la biographie sur le PSU, beaucoup de choses ont été faites sur la période 60-74. Il y a beaucoup de choses, il y a des monographies, et puis il y a une histoire du PSU, grosso modo il y a des choses qui ont été faites. À part de 74, il n'y a plus rien, quasiment plus rien. Plus rien. 74-88, donc c'est quand même la moitié de la vie du PSU, il n'y a plus rien. Mais finalement, a posteriori, on a tué le PSU, enfin, on ne devrait pas le dire comme ça. Mais on a considéré que le PSU était mort en 74 a posteriori. L'histoire a donné raison à Michel Rocard. Maintenant, il faut éviter, quand on est historien, de regarder les choses a posteriori. Et de se dire, mais est-ce que en 74-75, quand Rocard part... Est-ce que la mort du PSU est écrite? Est-ce que c'était écrit? Est-ce que finalement, on ne pouvait pas savoir à l'époque que Michel Rocard a raison? Bon, il n'a eu qu'à moitié raison, puisque c'est pas lui finalement qui a tiré les marrons du feu du PS. Mais, donc, c'est le questionnement. Et c'est vrai que, moi j'ai fait une communication là, l'année dernière pour les 50 ans du PSU à Paris, là-dessus, où j'ai essayé de montrer... à travers les archives dont l'on dispose, que ce n'était pas joué. Que finalement, dire le PSU est mort en 74, donc à la moitié de sa vie, 74-88, c'était peut-être excessif. Et quand on regarde les cartes d'adhérents, quand on regarde les effectifs, quand on regarde la sociologie du PSU, on s'aperçoit que finalement, il joue un rôle encore important jusqu'au début des années 81. L'agonie du PSU, c'est à partir de 83-84, lorsque Huguette Bouchardot prend la décision, qui était donc secrétaire du PSU, prend la décision de participer au troisième gouvernement Maurois, puis au gouvernement Fabius, comme ministre de l'Environnement. À partir de là, ça crée une sorte de division définitive à l'intérieur du PSU.
Merci à Yannick Drouet pour sa libre participation à cette émission réalisée dans le cadre des 30 ans du CHT. Les illustrations sonores ont été enregistrées à la Maison des Hommes et des Techniques à l'occasion du vernissage de l'exposition « Fragments d'histoire sociale, la Loire-Atlantique en lutte ».
Nous espérons ne pas avoir atteint l'âge critique. Par contre, nous approchons l'âge christique. Encore 3 ans. Si nous n'avons pas encore notre chemin de croix, nous avons déjà notre chemin d'éléphant. Sans compter que nous allons certainement avoir un article dans Nantes Passion. Alors...